Salut.
Salut.
C'est Bras Zéro.
Et vous êtes bien sur Canal Sud, il est 19h.
92.2. Ce soir, c'est une spéciale avec plein d'invités exceptionnels. Donc, nous accueillons deux personnes qui viennent d'Amérique centrale, Lauré et Steph. Une personne nommée Myriam et les trois font du théâtre de l'opprimé. Donc ce soir, on va parler de théâtre de l'opprimé.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Ça va ?
Ça va, hein ?
Oui,
ça va. Donc à la technique, il y a Ariella et Blandine, les meilleures. Voilà. Et en présentation, il y a moi-même et puis il y a aussi Chico.
Oui, je suis là, juste à côté de Liana.
Donc à 20h, en fait, il y a une projection et un documentaire qui s'appelle « Acuerpadas existimos y resistimos » ici à Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril. Branchez vos GPS et vos cartes. Et ce sera un documentaire sur le théâtre de l'opprimé avec des femmes qui vivent avec le VIH en Amérique centrale. Ce documentaire, en fait, vous avez contribué, Steph et Lauré, à le faire, c'est ça ? Et du coup, vous allez présenter le film à la fin de l'émission. Mais pendant une heure, là, on va surtout parler avec vous et Myriam du théâtre de l'opprimé. Peut-être que je vais vous laisser chacun vous présenter et nous dire un peu ce qu'est pour vous le théâtre de l'opprimé.
Bonsoir. Je suis Lauré. Lauré. Et je viens de Guatemala. Avec Steph, on a fondé, on a créé un projet qui s'appelle Metoca. C'est la multiplication, exploration du théâtre de l'opprimé en Amérique centrale. Tout ça, ça forme Metoca, que ça veut dire ça me touche. Et aussi, c'est mon tour.
Et c'est mon tour. C'est mon tour d'agir.
Ouais, c'est mon tour d'agir. Et on travaille avec le théâtre de l'opprimé il y a plus que 10 ans. Et pour moi, le théâtre de l'opprimé, c'est mon façon d'être militante. Et c'est une façon que je trouve très accessible pour tout le monde, pour agir, pour changer la réalité. Et je crois très très fort en les arts, oui, les artes, et pour changer beaucoup, pour s'exprimer. Je pense aussi que c'est très important de le théâtre de l'opprimé, que c'est un outil démocratique, qu'il ne faut pas savoir lire, qu'il ne faut pas parler une langue en spécifique. C'est pour tous et toutes. Et ça me branche.
Et concrètement, qu'est-ce que c'est ? Si vous pourriez donner une définition du théâtre de l'opprimé.
Alors bonsoir, moi c'est Stéphane, donc voilà, donc aussi depuis Metoca. Moi je suis né en France et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis en Amérique centrale. C'est intéressant du coup à préciser parce qu'en fait ma vie consciente est plus en Amérique centrale qu'en France, comme je suis parti assez jeune. Et donc l'activisme et toute la réalité du monde et société qui nous entoure, je l'ai plutôt en fait découvert depuis l'Amérique centrale, avec toujours un parallèle avec l'Europe, mais... Le théâtre de l'opprimé, qu'est-ce que c'est ? Il y a deux mots, hein, il y a deux grands mots dans cette histoire, hein, c'est le théâtre, donc c'est une expression artistique, et puis il y a l'opprimé, et qui devient alors opprimé, qui devient en fait le sens politique à cette expression artistique. En fait, on pourrait dire que c'est un moyen esthétique d'une volonté politique. Une volonté politique, pourquoi ? Pour essayer de transformer les réalités, pour essayer de s'émanciper des réalités injustes que l'on vit. Et on l'utilise donc, voilà, en recréant de l'esthétique et en pouvant, au travers de cette expérience, au travers de mettre dans nos corps, de mettre sur scène ce qu'on a besoin de transformer, parce qu'on part de nécessité. Ce sont des besoins fondamentaux, hein, ce sont des besoins qui nous empêchent d'avancer dans la vie, et on veut absolument les transformer. Voilà. Donc ça, c'est l'outil qui nous permet de le faire.
Merci. Myriam ?
Oui, moi je rajouterais... Bon déjà, je me présente vite fait. Hein. Moi je suis Myriam, ça va faire peut-être 5 ans à peu près que j'ai découvert et que je pratique le théâtre de l'opprimé. Donc surtout en France avec la compagnie Nage qui est basée en Île-de-France. Et ensuite, j'en ai aussi pas mal pratiqué en Colombie avec un collectif qui s'appelle Sopa de Piedras, Sopo Caillou, et avec qui on a travaillé surtout avec des communautés en lutte. Et par rapport à la définition du théâtre de l'opprimé, pour moi, c'est vraiment avant tout un entraînement à la lutte, en fait. Et c'est prendre des histoires concrètes, réelles, vécues d'oppression, les mettre en scène et collectivement essayer de transformer ça, s'entraîner, se tromper, pas se tromper, se donner des tips, se rendre compte qu'en fait on est tous et toutes, on peut être amené à le vivre, peut-être il y en a qui l'ont déjà vécu, et ça devient un dialogue en fait entre les participants, et ça provoque de la transformation individuelle et collective. Et moi c'est vraiment ça un truc qui m'a vraiment, enfin qui est important pour moi, parce que je pense que si je suis restée autant attachée à cette pratique là c'est parce que d'abord moi ça m'a aidée, ça m'a transformée, ça m'a permis de vraiment transformer des choses dans ma vie, et voilà, cette envie-là de partager ça avec les autres et de se rendre compte qu'en fait, on peut aussi faire des choses collectivement par cet outil.
Est-ce que du coup, l'un ou l'une de vous voudrait nous dire ce sur quoi individuellement, déjà, ça vous a transformé dans votre pratique, en une anecdote ou des choses que vous pouvez livrer ?
Eh ben...
Les trois, hein, mais chacun son tour, quoi.
Alors là, du coup, ça pourrait être intéressant. Moi, par exemple, quand je suis arrivé en Amérique centrale, je suis arrivé par les hasards de la vie, et puis rapidement, moi, je faisais beaucoup de clowns et de jonglerie, et on s'est aperçu d'une chose qui était le non-accès à l'information aux populations mayas au Guatemala sur le thème du sida, de la sexualité, du VIH. Et en fait, on a fait de l'accès à l'information. On a commencé avec des spectacles de clowns et on faisait donc de l'accès à l'information. Comment, en fait, au travers encore du corps et de la communication active et donc du cirque de rue, parler de ce tabou. Et on utilisait le clown parce qu'on dit que c'était le passeport diplomatique que le clown peut se permettre de parler de thèmes de sexualité, d'ouvrir des tabous, d'accompagner des processus que des fois c'est pas aussi évident à faire avec une blouse blanche ou dans les choses très, très carrées depuis les ministères de la santé. Et puis petit à petit, en travaillant en fait, on rentre dans un processus. Au début, voilà, c'est le spectacle aussi qui me branchait beaucoup. Donc, et puis petit à petit, on se rend compte qu'en fait, comme on travaille beaucoup avec les gens, avec la sexualité, on se dit mais en fait, le VIH, c'est pas forcément un problème de santé. C'est plus, c'est vraiment un problème de droit de la personne. En fait, il y a des gens qui sont beaucoup plus à même qui ont des vulnérabilités au VIH, quoi. Si on est une femme, si on est indigène, si on est en extrême pauvreté, si on n'est pas blanc, et là d'un coup, ça commence à devenir, on commence à comprendre en fait tous ces enjeux. Et puis du coup, je me retrouve une fois aussi au Chiapas en travaillant avec une communauté sapatiste, avec du coup un groupe mixte. Et en fait, on travaille un peu sur la thématique du VIH. Et puis, je me rappelle bien, c'était un moment clé où en fait, le groupe nous dit « Mais c'est intéressant ce que vous dites là avec le clown, on s'est bien marré, on a bien compris, mais on aimerait d'abord peut-être... » comprendre plus sur la sexualité, parler de notre corps avant d'entendre ces histoires de préservatifs, de qu'est-ce qu'on devrait faire, pas faire, comment ça passe pas. On avait besoin de plus de choses. Et là, c'est un peu le premier déclic en se disant, c'est vrai qu'en fait, à force de répéter des fois des messages clés, en ayant l'impression d'avoir une mallette de messages à donner, on se dit, mais en fait, est-ce qu'on a posé la question sur le besoin ? De quoi on avait besoin de parler autour de la sexualité ? Et puis c'est là qu'en fait, après les rencontres avec... Donc petit à petit, on se pose les questions et on continue. Et on se dit, tiens, je rencontre en fait à un moment au Brésil, dans les forums sociaux. Et en fait, je rencontre les gens du Théâtre de l'Opprimé de Rio. Et en fait, et petit à petit, je commence à percevoir un peu ce qu'ils étaient en train de faire. Et surtout, ils avaient cet outil qui était comment... comment faire naître en fait des mêmes personnes les problématiques et les traiter et arrêter de partir des données qu'on avait nous-mêmes dans des mallettes qu'on croyait déjà montées, qu'il fallait juste les distribuer. C'était non, il faut la mallette, il faut la vider, il n'y a plus de mallette et on la construit ensemble et à partir de là on peut commencer à faire des actions réellement transformatrices quoi.
Ok. Je me tourne féministe à travers le théâtre de l'opprimé. Des opprimés. Et j'ai compris à travers de l'expérience dans mon corps, dans les théâtres féministes de des opprimés. Et j'ai compris toutes les oppressions que j'ai vécues comme femme. Et j'ai commencé à être féministe à travers de ça.
Pour compléter ce que dit Lauré, moi je pense qu'aussi ce qui m'a vraiment fait des déclics, c'est pouvoir s'entraîner à réagir sur des micro-agressions ou des agressions sexistes et sexuelles, racistes aussi. Je pense que depuis que je fais du théâtre de l'opprimé, enfin, je suis beaucoup plus réactive dans la rue ou voilà, dans n'importe quelle situation où d'habitude, en fait, on est habitué aussi à être un peu paralysé ou pas trop savoir quoi dire ou avoir peur, etc. Et en fait, je pense que, enfin, concrètement, le théâtre de l'opprimé, ça aide vraiment à être réactif et aussi à s'entraîner à faire des trucs qu'on n'oserait jamais faire en vrai. Le fait de s'entraîner à le faire pour de faux, et ben, mine de rien, en fait, ça donne du power, quoi, et ça aide vachement ensuite à pouvoir réagir. Voilà.
Bras zéro, approchez-moi du micro.
On s'entraîne beaucoup. Et aussi à faire ça que tu vas parler, on analyse la structure. Et dans tous les processus de théâtre de l'opprimé, on pense collectif, on pense en collectif, on analyse pas les situations comme si c'est ma faute. Si j'ai vécu la violence, c'est pas parce que c'est ma faute, c'est parce qu'il y a une structure patriarcale qui normalise ça. Et moi, je pense que ça m'entraînait beaucoup à regarder la réalité dans cette façon d'analyser c'est quelle structure d'oppression qui habite là. Et j'ai rentré dans le muséum hier, avant-hier, et j'ai regardé, après je disais, bon, il y a aucune artiste femme dans tout ce muséum au muséum d'art moderne à Paris. Et ces regards, je sais que je l'avais pas fait. Mais maintenant, je regarde comment si je regarde un théâtre forum, je regarde l'image, et je lis l'image, je lis les sons. Et ça aussi.
Est-ce que vous pourriez, par exemple, raconter comment ça se déroule une séance de théâtre de l'opprimé, en fait? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est faire de la fiction avec la réalité, si j'ai bien compris, mais pour un peu clarifier ça aux auditeurs et auditrices et à nous.
Pour moi, déjà, ça commence toujours par plein de jeux, des exercices. Enfin, aussi, en fait, c'est toujours un travail de groupe. Donc, en général, ça va se faire sur la durée. Comment on construit le groupe, comment aussi on fait confiance dans le groupe. Il faut vraiment créer un espace qui soit, confiance plus, pour pouvoir faire le travail et faire un vrai travail de fond. Et en fait, c'est très simple. Le principe, c'est que les personnes qui participent racontent des histoires d'oppression qu'elles ont vécues, donc des vraies histoires, où elles se sont retrouvées dans une situation où, en fait, elles sont pas satisfaites, elles ont pas su quoi faire, ou alors elles ont pas réussi. En fait, en tout cas, elles ont pas réussi à mettre en œuvre leur volonté à ce moment-là. À cause, parce qu'il y a une personne qui avait plus de pouvoir, plus de moyens, plus de ressources, etc., etc. Et en fait, on met en scène, donc c'est pas vraiment de la fiction finalement, en fait, on met en scène cette histoire-là.
Et c'est la personne elle-même qui a vécu la scène qui...
La personne qui raconte l'histoire joue son oppresseur. Donc ça, c'est un peu un des principes de base du théâtre de l'opprimé. Donc elle joue son oppresseur, pourquoi? Parce que déjà, on va pas la mettre en position d'opprimé, parce que ça, c'est le pire, de revivre ce que t'as déjà vécu, donc t'as pas du tout envie de faire ça. Mais surtout, on la met en position d'oppresseur parce que c'est elle qui le connaît le mieux, en fait. C'est elle qui sait comment il ou elle va réagir, enfin voilà. Et ça donne aussi souvent pas mal de power. On joue cette scène, et ensuite, les participants, on dit stop au moment où on veut intervenir, et les participants viennent et essayent des trucs.
Mais il y a quelqu'un qui joue l'opprimé.
Il y a quelqu'un qui joue l'opprimé de base, qui joue la même chose que la personne a fait. Et ensuite, les autres personnes viennent remplacer cet opprimé. Dans certaines situations, on peut remplacer des témoins, mais bon, ça, après, ça dépend des pratiques et tout ça. Et tente des choses. Et là, c'est la personne qui anime, qu'en général, on appelle joker. La personne qui anime va aussi faire la synthèse politique de ce qui est en train de se passer. Et on va ensemble analyser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça a dévoilé, qu'est-ce que ça a révélé, comment on comprend mieux aussi la structure de pouvoir et la structure de domination, comment elle... qu'est-ce qui s'est passé, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut améliorer, blablabla. Bla bla. Est-ce qu'en fait, ça n'a pas du tout marché ? Est-ce qu'en fait... Il y a toute cette analyse-là, et il y a aussi vraiment ce truc sensible de se rendre compte de qu'est-ce que ça fait de tenter ça, de jouer ça. Des fois, on a une idée, on y va, et en fait, on ne fait pas du tout ça, parce que... Enfin, voilà, c'est aussi... C'est pas que de l'ordre de l'analyse, mais c'est vraiment de l'ordre du sensible, du rapport au corps, de se rendre compte qu'en fait, l'oppression, c'est pas du tout que... un truc abstrait qu'on peut expliquer de façon analytique, mais en fait, c'est des corps, c'est des personnes, c'est des émotions, c'est des vies, des expériences, etc.
Et alors là, tu parles en fait spécifiquement, voilà, l'un des outils du théâtre de l'opprimé, c'est le théâtre forum, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'exemple du théâtre forum, comment on monte une pièce de théâtre forum, comment on part, en fait, depuis, on dit souvent, desde por y para, non, depuis, pour et par, les personnes, en fait. Les personnes, c'est pour ça qu'on dit, voilà, en fait, les acteurs et actrices du théâtre de l'opprimé ne sont pas des acteurs et des actrices professionnelles, on dit même les acteurs et actrices professionnelles pourraient faire du théâtre de l'opprimé s'ils veulent, mais on part de problématiques qu'ils mettent en place. On parle souvent de points spécifiques, c'est-à-dire des situations très concrètes. On ne fait pas de la fiction, on fait de la représentation de la réalité. Alors, on ne joue pas la réalité, on ne fait pas de la représentation. On représente la réalité avec les moyens esthétiques. L'esthétique est importante, on recrée de l'esthétique. Il y a toute une... On essaye de passer cette nouvelle émotion au travers de l'esthétique. L'esthétique, ce n'est pas la beauté de la scène. L'esthétique, c'est comment on va faire passer au travers de la scène tout ce qui est sur scène est important, en fait, quoi. Les couleurs, les textures, la façon dont on veut le faire. Si pour nous, le fait d'être enfermé dans cette situation nous représente, je ne sais pas, accroupi dans une cage, eh ben on va faire cette métaphore éventuellement représentée sur scène. Ensuite, bien sûr, pour compléter ce que tu disais, en fait, on va, quand on vient, quand la personne, au lieu d'être assise depuis sa chaise pour donner son opinion, ce qu'on est quand même souvent habitué à faire, c'est donner une opinion, dire « Ah, parce qu'on devrait faire, c'est ceci, cela ». Alors souvent, on a une idée. Et là, on a la possibilité de jouer cette idée sur scène. Et c'est là où on va se rendre compte que des fois, on part avec une idée et on se retrouve à faire complètement autre chose, ou alors on dérive, ou alors on s'aperçoit que ça ne marche pas et on est obligé de trouver d'autres stratégies. On a la possibilité de faire ce qu'on n'a pas dans la vie. C'est souvent, on fait une action et on n'a pas la possibilité de revenir sur cette action. Il va falloir après faire différentes choses pour essayer de récupérer éventuellement ce qu'on a fait, ou de l'améliorer, ou de le fortifier. Mais on n'a pas cette possibilité. On dit souvent, on peut jouer sur scène, on a l'occasion de jouer sur scène des scènes de vie, en fait, quoi, et d'aller s'entraîner. Je suis complètement d'accord avec toi qu'ensuite, c'est ça. Ça nous rend plus réactifs, dans la vie de tous les jours, quoi.
C'est ça qui est l'objectif principal du théâtre de l'opprimé, c'est faire des actions concrètes, des actions sociales concrètes et continuées. Je ne sais pas si ça comprend comme ça en français, mais actions sociales concrètes et continuées. Alors, on fait du théâtre pour changer la réalité. Alors, le processus ne se finit pas quand on a une belle scène de théâtre forum qui marche pour les débats. En fait, l'objectif, c'est surpasser ça, c'est utiliser toute l'expérience qu'on a reçue de cette répétition de la réalité et faire des actions, des changements qui sont concrets et qui changent vachement notre vie.
J'aimerais compléter. En plus, c'est que c'est en fait chaque scène de théâtre forum, on dit un théâtre forum, en fait, on pose une question. Le théâtre forum, c'est une question esthétique qu'on pose au public. D'ailleurs, on ne fait pas un théâtre forum. En fait, dans un processus qu'on accompagne un groupe, ce sont des processus longs et on fait chaque théâtre forum nous apporte. Déjà, est-ce qu'on est en train de poser la question qu'on a envie de poser ? Ensuite, le retour public va nous permettre de, à chaque fois, retoucher notre pièce, être plus précis, être des spécialistes. On va devenir des gens qui vivent une oppression, on va devenir les spécialistes de notre oppression, en fait, quoi, de l'injustice qu'on est en train de vivre. Et on va pouvoir comme ça avancer jusqu'à temps de sentir qu'on est en train de poser la question précise. Une fois qu'on va poser la question précise esthétiquement, on va pouvoir la présenter du coup, alors autant à des publics qui sont concernés par cette injustice, autant des gens qui ont un rapport avec cette injustice, donc le rapport d'oppression, le rapport de pouvoir en fait, quoi. Et on va à partir de ça, commencer à comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. On ne le comprend pas la première fois, on le comprend petit à petit de quoi est-ce qu'on est en train de parler sur une scène de théâtre forum. Et puis après, bah voilà, dans les actions concrètes et continues, on a ensuite un deuxième volet qui serait le théâtre législatif, qui serait, ok, une fois qu'on a bien cerné, une fois qu'on a bien présenté 20, 30 fois sur une année, deux années, que le groupe là est prêt à faire du théâtre, législatif, ça peut se faire avant aussi, c'est, ok, Des choses toutes simples. On demande aussi au public non seulement d'intervenir sur scène, mais pendant qu'on intervient sur scène, on dit « Ok, demain, vous êtes les parlementaires. Ici, vous avez un poste de pouvoir qui fait que le cas de cette personne, le cas de Françoise qu'elle vit, mais c'est pas un cas isolé. Est-ce qu'il y a d'autres Françoises ? Est-ce qu'on connaît d'autres Françoises qui ont cette situation-là ? C'est des situations réelles qui sont vécues. Qu'est-ce que vous feriez demain ? Tout de suite, là, pour essayer de changer cette situation, changer cette structure du problème. Et puis, on commence à récupérer, en fait, toutes ces propositions. On commence à les classifier avec le groupe. On les classifie en fonction de celles qui pourraient être mises en place rapidement, celles qui sont plutôt intéressantes, mais peut-être vraiment complexes. Et puis, celles qui, en fait, n'ont peut-être rien à voir avec tout ça. Et puis, en fait, on va essayer ensuite de créer avec ça des actions d'incidence, ce qu'on appelle d'incidence politique, pour essayer de ensuite faire tout le processus de mettre en place ces changements. En fait, c'est vrai qu'avec Metoka, on a ce but, c'est le changement de la transformation.
Mi alma, cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, en contra el amor que está
dentro de tu pecho. Encontra la guerrera que defenderá tu cuerpo porque estos ojos son
toujours sur Canal Sud 92.2 dans Brasero, la meilleure émission du monde, sans prétention. Toujours avec Steph, Lauré et Myriam, et on parle du théâtre de l'opprimé. Donc maintenant, on va rebondir après un peu de théorie sur des exemples concrets. Voilà, une séance de ping-pong où vous allez un peu nous dire avec qui vous travaillez, avec qui vous avez travaillé, où, quand, quoi, comment. Allez-y.
Bon, on était en train de parler de théâtre législatif et je voudrais ajouter que quand on parle de théâtre législatif, on parle pas seulement que de législation, de la politique du gouvernement. On parle de comment est-ce qu'on pourrait penser, réfléchir collectivement pour faire des changements qui sont structurels. On essaye comment changer la réalité dans notre place, dans la place des opprimés, mais aussi comment on pourrait faire des changements qui ça changerait pour toutes les personnes qui vécues, qui expérimentent cette oppression-là. Et par exemple, pour parler d'un exemple concret, on travaille avec des femmes migrants dans la frontière de Mexique et Guatemala, dans les côtés du Mexique. Et on a commencé à faire un théâtre forum sur les soucis que, en fait, même si elles sont de l'argent pour payer les loyers, et personne veut leur louer une maison. Et au début, elles ont dit, bon, ça, c'est parce que nous sommes des migrants et il y a tout cet préjudice sur les migrants, elles ne veulent pas. Après, on a commencé, et c'est là que j'adore, qu'on commence à approfondir. Approfondir, merci.
Tu parles très bien.
Approfondir sur la problématique. Et on disait, OK, mais il faut peut-être aussi réfléchir sur la relation de femmes avec les territoires. Si on pense la relation de ta mère avec les territoires et ta grand-mère, et ça raconte quoi? Quelle relation on a les femmes avec les territoires? Et ça a sorti beaucoup des histoires des femmes que les pères a donné les terrains à les frères mais pas à les enfants garçons mais pas les filles et les femmes qui sont pas les titres de la maison et qu'elles sont s'ils veulent abandonner
séparer de leur couple, ils n'ont pas les titres de propriété.
Ouais, ils n'ont pas les titres de propriété. Tout ça. Alors, on a bien compris que c'est pas seulement un truc d'être immigrant, que c'est aussi un truc d'être femme. Et après, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, nous sommes tous des femmes avec des enfants. Et c'est pas une casualidad. Je sais pas comment dire, mais...
Un hasard.
Ouais, c'est pas un hasard que sont les femmes qui s'occupent des enfants, que sont les femmes migrantes qui sont avec des enfants et pas les mecs migrants. Alors, deux femmes avec deux enfants migrants, elles n'arrivent pas à avoir de maison. Alors là, on a créé un centre de théâtre forum qui parle de tout ça. Concrètement, et une des résultats, on avait deux résultats qui pour moi sont très concrets. Un, ça a été qu'ils ont fait une liste de personnes qui louaient des maisons pour les femmes qu'elles ont pour pouvoir aller dans chaque maison et faire tout ça que c'est terrible et c'est l'humiliation c'est le gaspillage de temps d'énergie tout ça alors non ça c'est la liste et c'est ça peut paraître un truc débile mais c'est très concret parce qu'après les gens migrants ils arrivent et ils savent où aller et la deuxième c'est comprendre qu'il y a un souci d'être avec des enfants et que les gens, ils ont peur que les femmes migrants, ils vont laisser les enfants à la maison toutes seules parce qu'ils doivent travailler et que les enfants vont détruire la maison. Alors, ils ont créé une crèche collective qu'il y a une femme qui garde tous les enfants de toutes les autres, alors les autres pourraient aller travailler, et pour les gens qui louent la maison, elle peut dire, bon, mais mon enfant sont à la crèche, parce qu'il ne peut pas aller à la crèche de l'État. Et là, c'est très concret, c'est faire l'analyse mais profondément, et comprendre c'est quel est le souci et comment elle pourrait faire, mais pas pour une personne, sinon plus structurellement. Je ne sais pas si je m'explique.
Ouais, ouais. Myriam, toi, tu as des exemples à nous donner?
Moi, en fait, comme j'ai ma pratique, j'ai jamais fait ça, comme activité principale ou quoi, donc ça a toujours été assez sporadique. Je pense que ce serait plus des exemples individuels, en fait, de travailler sur... moi, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes, du coup, des situations du type, je me souviens d'une fille...
C'était en France.
En France, par exemple, une fille qui avait un souci avec son employeuse. C'était une fille qui portait le voile et qui se faisait harceler par son employeuse. Et en fait, on a beaucoup travaillé sur sa situation. Et au bout de 3-4... on se voyait toutes les semaines. Au bout de 3-4 semaines, elle est venue rayonnante, trop contente parce qu'elle avait enfin pu... dire ses 4 vérités à sa boss et ça avait marché, elle avait eu ses heures subpayées, etc., etc. Donc ça, c'était chouette. Et après, un autre exemple peut-être en Colombie, du coup, on a eu beaucoup, pareil, avec des jeunes, on a beaucoup travaillé sur des thématiques, c'est une zone, là où on bossait, c'est une zone où il y a beaucoup de narcotrafic, situation un peu complexe comme ça, et on avait réussi à porter du coup cette parole-là des jeunes, leur avis sur ces thématiques-là devant toute la communauté scolaire, quoi. Et ça avait été super fort parce que c'était les on les écoutait pas trop, et puis ils avaient quand même un avis super nuancé, donc des jeunes qui par exemple fument des joints sont pas pour le narcotrafic. Du coup, je trouvais que c'était chouette de montrer ça du coup à des adultes qui diabolisaient complètement les jeunes qui fumaient, par exemple. Et après, on a eu beaucoup, mais ça, je pense que c'est un peu partout dans le monde, malheureusement, autant en France qu'en Colombie, plein de situations de violence conjugale, quoi. Enfin, des meufs, qui se font harceler ou frapper par leur conjoint, et de réussir un peu à débloquer aussi des situations comme ça. Ça fait toujours plaisir, même si c'est au niveau individuel, quoi.
Et peut-être... et du coup, au Guatemala aussi, en fait, le travail... donc un travail avec un groupe de personnes qui vivent avec le VIH, avec qui on travaille depuis plus de 8 ans. Donc avec différentes actions, par exemple concrètes, qu'on pourrait rentrer dans le théâtre législatif, comme disait, qui atterrit au concret de la vie. C'est par exemple le fait il y avait un théâtre forum qui portait sur la discrimination, le fait que les familles, au savoir des personnes qui ont le VIH, tournaient le dos en fait à ces personnes, et en fait essayer de comprendre d'où est-ce que ça venait tout ça. Et puis on avait identifié que ça venait au sein même du premier diagnostic, en fait, quand tu vas à l'hôpital faire ton test, et en fait le diagnostic par les médecins, c'est déjà que là, c'est là où c'est terrible, où on te dit t'as le VIH, quelque part t'as bien dû le chercher, tant pis pour toi, tu pourras plus avoir d'enfant, les ligatures de trompe, intempestives, le fait de faire peur aux gens en leur disant que s'ils avaient d'autres enfants ils naîtraient avec deux têtes, etc. Et donc du coup il y avait une action d'incident, c'était de faire du théâtre forum à l'intérieur de l'hôpital, et essayer de changer le protocole d'attention des personnes premièrement diagnostiquées, menées par le groupe de femmes et d'hommes qui vivent avec le VIH, en disant comment on aurait aimé être reçu lors de notre premier diagnostic, et faire revenir ces situations à l'hôpital. Il y avait des choses toutes bêtes comme mettre un banc dans la salle d'attente. Il y avait l'autre, c'était d'être reçu par des personnes qui vivent avec le VIH et pas par des médecins ou des infirmières. Essayer de changer ce protocole. D'ailleurs, pour continuer dans l'exemple d'action concrète de ce même groupe, quelques années après, une des participantes du groupe, un jour où on se retrouve tous les mois à peu près, elle arrive, comment ça va? Non, pas le moral, il y en a marre. En disant, je n'ai pas le moral, ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Je m'étais fait employer en tant que femme de ménage dans une maison. Et puis, du jour au lendemain, quand ils ont su que, en fait, j'avais le VIH, alors que je lui avais pas dit, mais qu'elle c'était, il y avait eu des rumeurs. En fait, elle m'avait enlevé le job, qui était un job où tu travaillais quand même, genre, 15 heures par jour, sans repos, etc. Mais voilà, elle s'était fait enlever le job. Et du coup, elle raconte ça avec le groupe. Et puis là, tout le monde, tout le groupe, en fait, nous on était là, puis tout le groupe fait, ouais, bah oui, ça c'est quotidien. C'est le béaba de vivre avec le VIH, quoi. Et là, il y avait une action. On s'était dit, bah tiens, on va travailler là-dessus. Et du coup, on avait travaillé dessus. On avait mené une action de dénonce. On avait dit, ok, puisqu'on n'arrête pas de dire, faut dénoncer ça aux droits de l'homme. Faut faire des actions. On va faire une dénonce. C'est pas le mot en français. On va poser une plainte. On va déposer une plainte. Et on va déposer une plainte collective. C'est-à-dire que c'est tout le groupe qui a été déposé une plainte collective par rapport à ce cas de discrimination très précis. En passant par le juge de paix, en passant ensuite par le système pénal. Mais en fait, ce qui était intéressant dans la démarche, c'était, on en a fait une petite BD qui était le parcours de comment déposer une plainte et de voir jusqu'à quel point c'est complexe, en fait, de ce processus. Mais ça permettait au groupe de pouvoir visualiser et de se dire, ok, ça, maintenant, on sait le faire. Et puis, du coup, c'est vrai que, alors, structurellement, c'est de se dire, tiens, essayer d'habituer les organismes qui disent toujours, bah ouais, mais si personne dépose de plainte, alors on dit, bah ouais, mais peut-être que le système de plainte n'est pas très performant non plus. Et puis, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, dans ce cas du théâtre de l'opprimé, il y a toujours la recherche de changements structurels. Et nous, on appelle ça l'effet collatéral positif. C'est le bien-être qu'on vit à faire ces processus, non? C'est-à-dire, on se transforme à ce moment-là, on acquiert plus d'outils, plus de force, et puis on commence à comprendre qu'en fait, c'est pas notre faute et que c'est en fait le système structurel qui nous fait vivre ces situations complexes.
Et à la fin, pour finir cette histoire, après qu'ils ont porté les plaintes, je ne sais pas comment ça se dit.
Porté plainte.
Après, la femme qu'il avait...
Qui avait...
L'employeuse.
Renvoyé,
ouais. Elle a l'appelé pour dire les menaces, comme « Ok, je vais raconter à tout le village que t'as le VIH et je vais faire ça, 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 ça. » Elle a dit « Tu sais quoi? Je suis pas toute seule. Je suis avec mes collègues du groupe de théâtre. Alors fais qu'est-ce que tu veux, nous sommes beaucoup. » Et là, il a fait rien. Et après, il avait en amende qu'il doit payer la femme, et il y a aussi je sais pas comment dire, mais les gens de justice qu'ils sont arrivés au village pour dire à toutes les gens qu'ils sont à tous les empleadores,
à tous les gens qui emploient des domestiques, hein, ouais.
Voilà, ouais. À tous les patrons, que s'ils font un truc comme ça, ils vont payer les amendes aussi. Et ça y est, et ça a été géant, quoi.
Qui va faire le ménage? Nous on fait de la radio sauvage. Qui va faire le ménage? Nous on fait de la radio sauvage. Qui va faire le ménage? Nous on fait de la radio sauvage.
Brasero, brassage radio.
Moi j'avais une question concernant les oppresseurs, du coup, parce que là j'ai l'impression que le théâtre de l'opprimé s'adresse et est fait par et pour les opprimés. Qu'est-ce qu'on fait des oppresseurs? Quelle est leur place dans les groupes? Les oppresseurs, donc, par exemple, dans des situations, si on parle du sexisme, les hommes vont être des oppresseurs. Quelle est leur place?
Alors là, du coup, moi, je peux prendre la parole, parce que du coup, c'est intéressant, parce que nous, on fait justement un travail là de plus en plus qui est sur la déconstruction du patriarcat avec des groupes d'hommes. Et voilà, il y a un positionnement qui est clair pour nous, c'est que, enfin, dans notre ligne de travail, c'est qu'on se positionne depuis l'oppression. Et en fait, on est obligé d'adapter en fait l'outil, puisqu'en fait on ne travaille pas pour renforcer l'oppresseur, mais là nous on se déclare en fait comme oppresseur, et on essaye de comprendre quels sont tous ces mécanismes, en fait, et on essaye de lire où est-ce que, déjà, de mettre à plat et de se dire, mais ce qu'on veut, c'est déjà nous reconnaître, nous, comme agents actifs dans la violence faite aux femmes et aux personnes non hétérosexuelles, quoi. Donc on se positionne directement et on fait un travail en fait précis par rapport à ça.
Mais je voulais bien aussi avoir les réponses des femmes présentes, par exemple, dans l'émission.
Bon, d'un autre côté, moi, j'ai fait partie du réseau Magdalenas, réseau Madeleine, on l'appelle. C'est le réseau de théâtre des opprimés. Et c'est en fait un réseau qui commençait, ça fait déjà 10 ans, et ça commençait exactement pour ça. Pour dire, suivons, on arrive, même si on parle de VIH, si on parle de migration, si on parle de ça, si on parle de ça, on arrive beaucoup de fois, comme tu avais dit, Myriam, et on arrive beaucoup de fois à parler de harcèlement, de violence faite aux femmes. Et beaucoup de fois, on arrive à représenter et dans une façon qui culpabilise, oui, qui culpabilise aux femmes, et qu'après les gens arrivent pour faire des interventions au théâtre forum pour dire bon, bah, c'est facile, tu réagis, ça y est. Et après on dit ben, mais moi je réagis pas, mais c'est pas parce que moi je suis bête, c'est parce que c'est en fait c'est difficile. Et il y a un truc qu'on n'arrivait pas comme réseau, moi comme réseau latino-américain, on n'arrivait pas dans les groupes mixtes à approfondir sur ça et comprendre c'est lesquels les mécanismes qui arrivent pour que c'est pas assez facile de réagir, c'est pas assez facile de quitter une relation violente, c'est pas facile. Et c'est pas parce que nous sommes pas courageuses, parce que nous sommes bêtes, c'est plus complexe que ça. Alors on a commencé cette réseau pour dire ok, on a besoin de parler entre femmes, que des femmes, dans les espaces qui sont sécurisés, qui n'est pas dans les compétences pour les machos, et on est en confiance et on peut parler de tout, et même des choses qu'on peut pas dire à nous-mêmes. On les dit on parle de ça et dans les groupes, et on essaye vachement de trouver pourquoi on arrive à ça. Et on travaille là beaucoup, mais beaucoup sur, on l'appelle ça, les ACC, mais pour comprendre les macros, pour comprendre tous les trucs structurels. Et nous sommes on arrive à être activistes, féministes, après qu'on comprend tout ça, et que c'est pas ma faute, et on arrive à être un collectif. Et aussi parce qu'il avait une conférence mondiale, la seule conférence mondiale de théâtre de l'opprimé. Ils ont trouvé qu'il avait 5 femmes invitées dans une conférence de 80 pratiquants de théâtre de l'opprimé. Ça pose la question. Alors, les femmes sont la majorité des groupes des opprimés. Et après, il n'y a pas de jokers, il n'y a pas de leaders.
Je veux dire que souvent, les animatrices, en fait, du théâtre de l'opprimé, en fait, c'est des dominants, du coup.
Ça a été comme ça et par rapport au genre, et je pense que ça a été aussi comme ça par rapport à la race. Et après que ça commençait le réseau Magdalenas, ça a changé beaucoup dans les scénarios, au moins dans les scénarios latino-américains. Et aussi dans le réseau Magdalenas, on avait, après 5 ans que ça existe, ça commençait tous les débats sur la race pour dire ok, nous sommes tous les femmes, nous sommes tous égales. Non, c'est pas le même être une femme noire qu'être une femme blanche, et c'est pas le même être une femme indigène et autochtone, indigène d'Amérique latine, qu'être une femme blanche. Et on a commencé un grand débat, et on a commencé aussi des actions concrètes comme poser de l'argent à côté pour que les femmes noires pourraient participer du festival de formation, parce que sinon elles sont pas des accès, alors elles peuvent pas être des animatrices.
Ouais. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est hyper important quand on anime en tout cas des groupes, d'être vraiment au clair sur les questions qu'on va travailler. Et dans l'idéal, en fait, les personnes qui participent, elles sont concernées par l'oppression. C'est-à-dire que si on va travailler sur les questions de sexisme, de patriarcat, en fait, l'idéal, c'est d'être un groupe non mixte. Question de racisme, pareil, etc., etc. bien sûr, après, dans la vie réelle, on va souvent être avec des groupes mixtes. C'est pas pour ça qu'on va pas le faire. Moi, par exemple, je trouve que ça peut aussi amener des choses intéressantes d'être en groupe mixte pour travailler, par exemple, sur des questions de sexisme. Par contre, moi, par exemple, dans ma pratique, j'ai un peu des principes aussi clairs. C'est que, par exemple, moi, je laisse pas les hommes remplacer des femmes. Il y a des praticiens qui le font, qui arrivent à le gérer. Moi, je trouve que c'est dur à gérer. Donc, je le fais pas. Et en tout cas, je pense qu'il faut vraiment être... Quand je dis qu'il faut être au clair, c'est parce qu'en fait, il faut vraiment être très précis quand, après les interventions des personnes, on va faire la synthèse politique, on va discuter qu'est-ce qui s'est passé. En fait, si on n'a pas déjà un peu l'expérience d'avoir travaillé ça, pas forcément Théâtre de l'opprimé d'ailleurs, c'est difficile des fois de justement pas faire que des personnes se sentent culpabilisées. Enfin, en fait, on veut essayer d'éviter ça quand on anime, donc... Je pense que c'est vraiment important politiquement d'être très au clair sur ce qu'on est en train de faire et de pas le faire si on se le sent pas, quoi, sur certaines oppressions, etc.
Non, et je pense aussi que même dans les groupes mixtes, c'est très important de, on dit en espagnol, de poner eso en la mesa, de poser ça sur la table, je sais pas si... Ouais, ça, mais de dire ça, dire ok, on parle de violences sexistes et on a ici le mec. Vous trouve que vous êtes des oppresseurs ou vous sentez que vous avez rien à faire avec ça. Et là, ok, si vous reconnaître que vous êtes partie du problème aussi, on peut travailler ensemble. C'est comme nous dans le réseau féministe, Magdalena, si moi je ne reconnais pas que j'ai des privilèges comme femme blanche en Amérique latine, pas ici. Et je ne peux pas travailler avec mes collègues noirs si moi, je ne reconnais pas. Et là, si on parle de point de reconnaissance de privilèges, on peut travailler ensemble. Moi, je crois comme ça.
Ouais. Et ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et aussi, je pense que... Et ça, c'est vraiment un principe, tu en as parlé tout à l'heure... Steph, du théâtre de l'opprimé, c'est qu'il ne faut jamais perdre ce truc qu'en fait, on est toujours au service de l'opprimé et qu'on parle toujours du point de vue de l'opprimé. C'est-à-dire que forcément, même moi, je peux me retrouver en position dominante dans une certaine situation. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas pouvoir animer ce forum-là ou ce groupe-là. Mais par contre, il ne faut vraiment jamais que je perde de vue ce truc que moi, je suis au service. Je suis juste, en fait, je suis vraiment juste une facilitatrice et la personne... qui a vécu l'oppression et les autres personnes qui sont concernées par cette oppression, c'est ces personnes-là, en fait, c'est leur point de vue qu'on soutient et on n'a pas à venir donner son avis.
C'est l'histoire un peu de la personne qui intervient en forum. C'est l'histoire, pardon, j'ai fini la technique. L'histoire un peu où quand des gens qui se sentent moins concernés vont remplacer quelqu'un, par exemple sur une question de boulot, et qu'oublient que la nécessité de la personne qui est opprimée, c'est de garder son taf, quoi. Mm-hmm. Et moi, on a vu des situations où les personnes disent « Bah voilà, t'as juste à répondre ça, tu fais fuck off au boss, puis tu te barres, puis tu vas trouver un boulot ailleurs, tu vois. Mm-hmm. » Et en fait, là, il y a un espèce de truc où je pense ce que tu vous racontiez, quoi, du pouvoir de l'animation et des personnes qui organisent ce truc pour pas reproduire une humiliation et faire l'inverse du côté powerful que ça peut être, quoi. Et moi j'avais juste une autre question, peut-être on refera une pause musicale tout à l'heure, mais c'était par rapport au le théâtre forum que vous expliquez là, c'est beaucoup dans de l'argumentaire, des scènes qui sont rejouées, des débats où les gens interviennent à l'oral, etc. Il y a d'autres, le théâtre de l'opprimé, il y a d'autres branches, et vous, est-ce que vous pouvez en présenter peut-être une ou deux autres branches que le théâtre forum et peut-être un ou deux exemples de travail sans la parole par exemple. Mm-hmm. Myriam, Steph, allez-y.
Sans la parole, il y a le théâtre image déjà par exemple. Donc du coup, c'est un travail qui va se faire beaucoup plus en atelier et qui d'ailleurs est super complémentaire avec le théâtre forum. Mais du coup, on travaille à partir d'images, c'est-à-dire des images fixes qui représentent des scènes d'oppression. Et on va, bon, il y a beaucoup d'outils. Je ne vais pas m'étendre sur tous les outils, mais
des images projetées.
Des images. En fait, les personnes font comme des statues qui représentent comme une photo. Qui va représenter une oppression vécue. Du coup, on peut travailler comme ça a été dit tout à l'heure, on peut travailler sur des trucs beaucoup plus métaphoriques, c'est-à-dire, on peut symboliser une oppression par, par le corps et du coup par des choses qui ne sont pas réalistes, mais qui sont plus de l'ordre de la sensation et de ce qu'on éprouve en voyant ça. Et là, on va pouvoir travailler aussi sur des, bah justement, sur des mécanismes un peu plus fins de qu'est-ce qui est en train de se passer. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment du détricotage très très fin qui du coup est plus de l'ordre de bah ouais du débat, de l'argumentaire, mais plus de la sensation et du corps, du côté corporel.
Ouais, et puis dans le montage d'une scène de théâtre forum, nous en fait les mots viennent à la fin et ils viennent si jamais ça n'a pas été dit par l'esthétique, par la musique, par la poésie, par le scénique, par les installations, par les sculptures. Si tout ça n'a pas, enfin, si on a besoin ensuite d'ajouter des petits moments, on va les mettre à ce moment-là. Et d'ailleurs souvent on fait ce jeu de présenter très vite. On n'attend pas d'avoir une scène de théâtre forum. On monte très vite des embryons, ce qu'on appelle des embryons de choses, et on voit à 3-4 personnes, 5-6, hop. Hop, on voit ce qui réagissent, comment ça passe. Hop, on revient dessus, on construit, on raconte pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler. On fait des explorations sonores. En fait, on va travailler que depuis le sonore avec la construction. Alors on utilise peu d'instruments de musique déjà établis. On fabrique nos propres instruments, nos propres sons, et on essaye de raconter une histoire sonore, par exemple, jusqu'à temps d'essayer de préciser de plus en plus. Et en fait, ensuite, on interroge l'autre partie du groupe. On a senti là. Oh, il y avait comme ouais, tout allait bien là, on entendait les sons, ça allait bien. D'un coup, il s'est passé quelque chose. Ah, et ce type de son, c'est quoi pour toi en fait? Ah, ça, on aurait l'impression que c'est tiens, ça pourrait être peut-être sur du bullying ou alors de l'agression. Et ensuite, on fait ah, d'accord, et on continue de travailler ainsi de suite, et jusqu'à temps d'arriver. On s'amuse pas à voir s'ils vont trouver ou pas. C'est juste, on se dit tiens, on amplifie en fait la possibilité. Après, on dit tiens, on va rajouter de l'image. Juste l'image. On rajoute de l'image, du son. Est-ce que c'est plus clair? Et puis on avance comme ça en fait quoi. Donc il y a vraiment les mots souvent. Comme on sait très bien les utiliser, les mots, on les garde pour plus tard et on va mettre des mots précis en fait quoi.
Ouais, si je veux raconter un petit exemple, c'est que dans les théâtres forums, on fait pas seulement des argumentations avec la parole, en fait, comme Steph a dit, on essaye de quitter la parole et travailler sur l'image, sur les sons. Alors, on avait une scène qui parlait de la violence conjugale, et forcément, et la protagoniste était entourée. Comment dire?
Entourée.
Et avec des fleurs, très beaux fleurs, mais elle pourrait pas partir pour qu'il ait. Et elle était entourée de fleurs. Et après l'intervention, ça a été qu'une amie, elle rentrait dans cette cage de fleurs et elle a coupé les fleurs et l'a donné. Alors ça me fait comme ça. Et elle a montré que c'est possible de couper des fleurs, même s'ils sont très, très beaux, très belles, que c'est possible de couper. Ça a été une intervention sans parole. Et c'est pour ça, c'est parce que dans le théâtre de l'opprimé, on parle de pensées sensibles. On parle que l'esthétique, ça touche pas seulement les pensées rationnelles, sinon toutes les pensées qu'on a dans tous les corps. Et aussi, on travaille, pour dire un autre exemple, c'est le théâtre invisible, que ça s'est créé dans la dictature en Argentine, mais c'est pour parler des choses qu'on voulait parler, mais s'il y a la censure, on ne peut pas parler. Et alors, on vient de faire une scène de théâtre invisible sur la privatisation des espaces publics, et on a monté une scène qui ça paraît réelle, mais ça exacerbe la réalité un peu. Ça montre, ça amplifie cette réalité que on fait comme si c'est naturel, c'est invisible, mais on fait des trucs théâtrales pour monter la discussion dans l'espace public.
Eh ben, l'émission touche à sa fin. Ouais. Merci beaucoup.
Ouais, on rappelle qu'il reste 4 minutes aux personnes pour prendre le métro, le taxi, le Uber. Vous voyez, vous faites comme vous pouvez pour venir voir le film qui va être diffusé dans une demi-heure environ, qui va parler de la lutte du théâtre de l'opprimé, des femmes qui... vivent. Il n'y a pas que des femmes, des personnes qui
non,
vivent.
Non, non. Ah. Ça, c'était un projet, j'ai parlé résumidement. C'est un projet qu'on avait fait dans 11 pays d'Amérique latine avec des femmes qui vivent avec le VIH pour lutter pour leurs droits et à travers le théâtre des opprimés. Okay.
Donc venez.
Bah oui, il y a des trucs à manger en plus. Ça a l'air trop bon. C'est végétarien et vegan.
Et merci. Et avant de finir en musique ou je ne sais quoi, moi je fais une dédicace à une personne qui n'est pas là, qui était aficionado del Teatro del Oprimé, Laura, grande camarade, qui nous a quittés il y a quelques années. Voilà.
Moi je vais faire une dédicace à une personne qui est née il n'y a pas très très longtemps et qui s'appelle Azul. Et en fait elle nous écoute là de l'autre côté. Voilà, on l'adore. Bon bah, Luz aussi. Allez, TKT.
Et une petite dédicace à Gigi également.
C'est vrai ça?
Tu vas bientôt Gigi sortir.
Bisous.
Et une petite dédication à Alejandra, à Juan Carlos et à Josefina.
Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia con Ali Guagua. Original,
carnalas.
Y se me nota la lengua velo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Princesa atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el hipopo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo. Si estas panties me quedan muy apretadas. Si mi cabeza siempre está despeinada. Que si traigo muy corta la falda. Que si bailo como me da la gana. Que las ladies no usan malas palabras. Que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite. La que baila, la que goza, la que explota. La que brilla porque no le importa. Y no corta las alas a otras.
Represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada.